Bonjour, vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Nous allons parler gastronomie aujourd'hui, histoire de la cuisine, avec le professeur Albert Mudry qui s'est passionné pour Joseph Favre, cuisinier et érudit, un cuisinier suisse qui a beaucoup exercé en France, en Allemagne également et du côté de Londres. C'est publié aux éditions Favre. C'est un livre de très belle érudition que nous aborderons dans un instant avec son auteur. Mais avant cela, la chronique coup de cœur, trois coups de cœur qui ont été préparés par Emmanuel. Pour commencer, La Dame du Ritz de Mélanie Benjamin aux éditions Albin Michel. Voici un roman s'inspirant de faits réels, nous plongeant dans les coulisses du Ritz, le fameux hôtel parisien. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Ritz, soi-disant libéré par Ernest Hemingway, l'empire du luxe, le lieu où le prestige protège du pire, un directeur, Claude Osello, et sa femme juive américaine Blanche, et les hauts dignitaires de l'armée allemande qui débarquent dès juin 1940, dont Hermann Göring. À la porte d'entrée, les portiers élégants sont remplacés par des soldats et l'insouciance et les caprices cèdent à la peur. Le bruit des bottes étouffe les rires. La dame du Ritz, Blanche, est une Américaine rebelle et intrépide. Elle n'est pas femme à se résigner, mais elle porte en elle un lourd secret durant cette guerre, secret qui pourrait la mettre en danger ainsi que son époux et par là même ternir la réputation du Palace parisien. La Dame du Ritz de Mélanie Benjamin s'est publiée aux éditions Albin Michel. Deuxième coup de cœur dans cette émission passé-présent, Ils voyagèrent vers des pays perdus de Jean-Marie Rouart, membre de l'Académie française, s'est publié aux éditions Albin Michel également. Nous sommes le 11 novembre 1942. Un téléx apprend au monde que le maréchal Pétain a quitté Vichy pour rejoindre Alger. Finalement, il y renoncera, essentiellement parce qu'il avait la peur de monter dans un avion, mais où les Américains viennent de débarquer. En effet, la donne change dans l'équilibre des forces en cette fin d'année 1942. À Londres, après la consternation, c'est l'affolement. Le général qui a songé au suicide décide dans un rêve onirique, un véritable cauchemar, de rassembler ses troupes et d'affréter un bateau de guerre, le Destiny, surnommé le cercueil flottant. À son bord, toute une flopée de personnes avec entre autres Robert Aron, Joseph Kessel, Druon, mais aussi des traîtres, des espionnes, des cartomanciennes, le monde en réduction dans lequel la drogue circulera et où les couples se feront et se déferont. En vogue le navire, direction Samarcande, jusqu'au réveil. Ils voyagèrent vers des pays perdus. C'est signé Jean-Marie Rouart de l'Académie française et c'est publié aux éditions Albin Michel. Le troisième choix d'Emmanuel nous emmène en Égypte. Intrigue au pluriel en Égypte d'Adrien Goetz, publié aux éditions Grasset. Voici la cinquième enquête de Pénélope, conservatrice au Louvre en charge des collections de bijoux égyptiens et de Vendry, journaliste, et les voilà pris dans une enquête, les ramenant à l'expédition en Égypte de Napoléon Bonaparte en 1799. À l'origine, un cambriolage à Reims dans le trésor des sacres royaux, un anneau égyptien portant le cartouche de Néfertiti est dérobé. L'anneau avait été offert à l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Le nœud de cette affaire, un lien secret qui unit les Bonaparte et les Bourbons, et dont la clé se trouve encore au pays des pharaons. Ce roman, dans la veine des quatre précédents, est une fois de plus une façon divertissante d'apprendre des détails de l'histoire de l'art. Intrigue en Égypte, c'est signé Adrien Goetz et c'est publié aux éditions Grasset. Je remercie Emmanuel pour ces trois coups de cœur que je viens de vous présenter. Nous allons marquer une première pause musicale dans cette émission passé-présent. Nous écoutons Laurent Voulzy, un titre de 1979, Karine Redinger.
Jolie jeune mariée, lune de miel à peine commencée. Méfiez-vous des voyageurs, voyez Karine Redinger. Karine Redinger, j'ai reçu votre lettre à fleurs. Vous devez être endormie, rêveuse de choses qui sont loin de moi peut-être. Alors c'est pas bien. Karine Redinger, il y a un morceau caché de mon cœur qui est resté quelque part sur un bateau vapeur. Vous étiez mariée depuis 2 heures. Vous laissiez le vent montrer vos jambes en douceur. Et vous m'aviez remarqué parmi les voyageurs. Karine Redinger, arrêtez de m'envoyer des fleurs. J'ai une femme à Paris et vous un gentil mari. Cessons la scène musicale comédie. Votre lune de miel au fil de l'eau. Vous veniez le matin très tôt et vive l'amour en bateau. Endormi le petit mari sur le Mississippi. Vous étiez quand même un peu gonflé de m'apporter mon café. Karine Redinger, veuillez oublier ce steamer. Cette petite plaisanterie m'a fait pleurer dans mon lit. Heureusement pas trop longtemps. Ah ah. Karine Redinger, ne venez pas voir le Sacré-Cœur. Laissez Paris tranquille, vous êtes dangereuse dans cette ville. Un Français c'est souvent sentimental. Laissez le vent montrer vos jambes en douceur. Et vous m'avez remarqué parmi les voyageurs. Karine Redinger, arrêtez de m'envoyer des fleurs. 10 jours en bateau fou, souvenir, rendez-vous. C'est fini là, from me to you. Oh, Karine Redinger, je m'envoyais des fleurs. Cette petite plaisanterie m'a fait pleurer dans mon lit. Cessons la scène musicale comédie. Cessons la scène musicale comédie. Cessons la scène musicale comédie. Ciao.
Vous écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Mon invité, le professeur Albert Mudry, pour le livre qu'il publie aux éditions Favre, Joseph Favre, cuisinier et érudit. C'est une véritable encyclopédie.
Ouais,
je
c'est
suis
un bon...
régalé.
Ah
vous
bon.
Qui êtes histori... Mais oui, vous qui êtes historien de la médecine, vous devenez historien de la gastronomie et de la cuisine à travers cet ouvrage.
Eh ben c'était un petit peu le but, en fait, d'utiliser mes connaissances en histoire de la médecine. Et puis, en fait, quand je me suis intéressé à Joseph H., je me suis rendu compte qu'il avait eu des contacts étroits avec la médecine et que son dictionnaire est rempli de détails médicaux. Donc, c'était pour moi, je dirais, un bon moyen d'associer l'histoire de la médecine, qui est une partie de mon travail, et puis ma passion pour la gastronomie.
Alors, comment avez-vous rencontré Joseph Favre ? Parce que malheureusement, même si depuis quelques décennies, il y a un regain d'intérêt autour de sa personne, il a été un peu oublié. Il est mort sans que sa disparition ne fasse grand écho en 1903.
Ouais. Donc j'ai rencontré Joseph Favre par l'intermédiaire de l'Académie culinaire de France, parce que j'ai eu la chance d'être intronisé en 2012 comme membre associé de l'Académie culinaire de France. C'est vrai que c'est une position un tout petit peu particulière parce que la plus grande partie des membres sont des cuisiniers ou des gens qui travaillent avec la cuisine. Mais moi, j'avais déjà fait des présentations sur les cinq sens, la gastronomie, etc. Et puis, j'ai été, après quelques années, introduit à l'Académie culinaire de France. Puis, comme j'aime beaucoup l'histoire, en regardant l'histoire de l'Académie, j'ai dit, tiens, il y a un dénommé Joseph Favre. Ah, ok, qui est ce monsieur? Très bien, il vient de V, c'est le village de ma maman. Alors j'ai dit, bon, voilà,
c'est un lien particulier qui vous relie à lui.
Alors effectivement, c'est un lien d'origine, et puis j'ai aussi habité le village de V pendant 3 ans, donc je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas faire le lien entre les deux.
Alors c'est un village du canton du Valais, et c'est dans ce village qu'il naît le 22 février 1844.
Oui, effectivement, et non 1849 comme souvent cité.
Car vous rectifiez un certain nombre de choses dans sa biographie.
Eh bien oui, parce qu'à un moment donné, quand j'ai commencé à chercher des détails sur son origine, j'ai contacté les autorités communales, et puis j'ai eu la chance d'avoir accès au registre de l'église, etc., qui donnait des dates tout à fait précises de la naissance de Joseph Favre.
Et qui le présentait comme orphelin très jeune, alors que finalement il perd ses parents à 18 ans.
Exactement, donc il avait un petit frère. Probablement que l'idée d'être orphelin très jeune, c'est son petit frère qui avait presque 10 ans de moins que lui. Donc je peux imaginer que quand lui avait 18, il avait 8 ans et puis il est mort orphelin. Enfin, c'est, il était orphelin à la mort de ses parents, quoi, mais pas Joseph Favre.
Alors, Joseph Favre commence son apprentissage de cuisinier à Sion, Sion qui est le chef-lieu, la capitale du Valais, en 1862.
Oui, donc il avait 16 ans, donc ce qui est un âge à peu près normal. Non, il avait 18 ans en fait, c'est un âge à peu près normal. Où il faut imaginer que V est un village qui est à 10 km de Sion. Donc à l'époque, il n'y avait pas de route goudronnée comme maintenant, donc c'était déjà une expédition, j'imagine, pour descendre jusqu'à Sion. Et puis là, il a fait son apprentissage avant de partir en France, d'abord.
Il commence sa carrière au Grand Hôtel de Genève, le Grand Hôtel de la Métropole.
Oui, alors après, il a été dans plusieurs hôtels, je ne les ai pas tous en tête, les hôtels qu'il a fréquentés, mais il a d'abord fait quelques étapes ici en Suisse avant de partir en France.
Alors, il y aura Paris, il y aura une escapade du côté de Londres, il y aura également quelques lieux en Allemagne.
Il y aura Berlin, il y aura Kassel en Allemagne, il y a différents endroits où il a été travaillé. Et puis ensuite, il est revenu en Suisse où il a fait un tour en Suisse. Il a travaillé en Suisse romande de nouveau, à Genève, à Fribourg, à Lausanne. Il a travaillé à Lugano aussi. Et puis il a travaillé dans un hôtel dans la montagne au Rigi-Ulm. Donc il a fait aussi un bon circuit en Suisse.
Et très tôt, il est convaincu par la nécessité d'une approche hygiéniste de la cuisine.
Alors ça, je pense que ça a été... En tout cas, au niveau médical et paramédical, sa plus grande action, c'est qu'il s'est rendu compte que les cuisines au sous-sol, sans lumière et mal aérées, ce n'était pas une bonne chose. Et puis aussi la propreté des cuisiniers. Donc, lui, il a essayé de promouvoir, de mettre des cuisines, pas à l'air libre, mais j'entends dans un endroit bien aéré, de demander aux personnes qui y travaillent de se laver, etc., pour vraiment introduire l'hygiène dans la cuisine.
Il souhaite des pièces qui soient vastes. Ouais. Et il est très attentif également aux ustensiles, de ces ustensiles.
À la qualité et surtout à la propreté aussi, parce que quand on travaille dans des ustensiles en cuivre, il y a certainement beaucoup moins de déperditions de métaux que dans des vieux instruments avec de la fonte ou je ne sais pas quoi. Suivant comment ils sont préparés avec la cuisson, il y a certainement des petits morceaux qui peuvent se détacher.
Alors, il prend la plume et il va diffuser ses idées, ses convictions, ses intuitions dans un journal culinaire intitulé « La science culinaire ».
Oui, alors ce journal, c'est un journal assez extraordinaire qui a été publié pendant 6 ans. Bon, lui a été l'auteur d'une grande partie des textes. Il a essayé de le diffuser assez à travers le monde, mais ça n'a pas été, semble-t-il, tout simple à voir ce qui se passe. La difficulté pour étudier ce journal, ça a été que je n'ai pas trouvé un endroit où ce journal existait au complet. Donc à Paris, ils ont les deux dernières et demie années qui sont complètes, et à Genève, ils ont à peu près le 60% des 4 premières années. Donc j'ai eu la chance de pouvoir...
C'est une publication qui s'espace sur 6 années.
Sur 6 ans, oui. Et puis c'était un journal par mois ou 2 fois par mois entre 6 et 8 pages à peu près.
Alors il est tout à fait précurseur de ce rapport entre la cuisine et l'hygiène, et il affirme même la cuisine est l'auxiliaire de la médecine. C'est très fort comme affirmation.
Moi, je pense qu'il a raison, parce qu'une voiture sans benzine, elle ne fonctionne pas. Donc, un corps humain sans bons nutriments ne fonctionne pas non plus. Donc là, je crois qu'il a vraiment raison. Et on voit d'ailleurs aujourd'hui le nombre de pathologies qui sont liées à la malbouffe. Hein. L'hypertension, le cholestérol, le diabète et tout ça sont le plus souvent liés à la malbouffe. Donc, il avait, à mon avis, extrêmement raison en affirmant ça.
Il a une approche diététique de la cuisine.
Tout à fait. Peut-être pas aussi diététique dans le sens qu'on la conçoit aujourd'hui. Il faut calculer toutes les nombres de calories, les grammes qu'on mange, etc. Mais il avait une approche d'une cuisine, je dirais, saine, avec des produits d'origine de bonne qualité et puis, si possible, pas trop mélangés avec des produits qu'on connaissait mal, etc. quoi.
Alors, il connaît une certaine renommée, puisqu'en 1878, il préside la première exposition internationale d'art culinaire à Francfort.
Oui, exactement. Donc, il a été partie prenante de son organisation. Puis, ça a été aussi une des premières fois où on faisait une exposition comme ça au niveau de la cuisine.
Alors, il y a un aspect de sa personnalité qui est souvent ignoré et que vous mettez en relief dans votre ouvrage, c'est son engagement dans le mouvement ouvrier et anarchiste.
Ah, ça devait être une période assez excitante de sa vie, là. Mais je pense que cet engagement-là correspond finalement à l'image de sa vie. Donc, il s'est battu... pour l'hygiène dans les cuisines, il s'est battu pour que l'égalité de certaines choses, etc. Et puis bon, j'ai aussi eu la chance de pouvoir bien étudier ce sujet parce que le musée international de ces mouvements-là est à Lausanne. Donc j'ai pu aller vraiment voir toutes les archives de l'époque et puis les gens, ils étaient aussi très intéressés de m'aider à les sortir. Donc c'est vrai que ça donne une image un petit peu particulière du personnage. Mais ce qui m'a aussi surpris, c'est que d'un jour à l'autre, il a tout arrêté. Alors, je n'ai pas trouvé d'explication pourquoi, mais voilà.
Bon, ce mouvement anarchiste est très ancré dans le Jura, que ce soit le Jura français ou le Jura suisse.
Oui, tout à fait. Et puis, il y avait dans la région lémanique, ce n'est pas bien loin du Jura. On est à 30 km du Jura ici. Donc, c'était clair que les gens avaient des connexions et puis voilà, quoi.
Il connaît même Courbet, qui fait un tableau de lui, portrait de lui.
Alors, en tout cas, moi, je n'ai trouvé que des représentations de ce tableau de Courbet. Hein. J'ai essayé de contacter les amis de Courbet, le musée Courbet, etc. Personne n'est au courant de ce tableau. Mais en fait, la première trace de ce tableau, c'est dans un texte de 1937, dans un journal qui parle de Joseph Favre. Donc, moi, je n'ai pas trouvé d'autres sources par rapport à ce tableau. J'aurais bien aimé trouver ses descendants, j'ai pas eu la chance de les trouver. Alors j'espère que ce bouquin, ça va les réveiller, hein, pour qu'ils se disent, ben tiens, moi j'ai peut-être ce tableau de Joseph Favre chez moi, je sais pas.
Albert Mudry, nous allons marquer une pause musicale dans cette émission et je vous retrouve dans un instant pour la suite de cette passionnante conversation consacrée à Joseph Favre, cuisinier et érudit. Nous écoutons Laurent Voulzy, Belle Île en mer, Marie Galante. C'est un titre de 1986.
Belle Île en mer,
laissa par moi des souvenirs d'enfance. Enfance, violence, manque d'indulgence par les différences que j'ai. Café léger, au lait mélangé, séparé petit enfant. Tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. Sa part, comme laisser tout seul en mer. Corsaire sur terre, un peu solitaire, l'amour je le voyais passer. Ohé, ohé, je le voyais passer, séparé petit enfant. Ce sentiment de solitude et d'isolement.
Écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïca. Mon invité, Albert Mudry, pour Joseph Favre, cuisinier et érudit, le livre qu'il publie aux éditions Favre. Joseph Favre, personnage tout à fait passionnant, qui a l'intuition de cette relation fondamentale entre la cuisine et la médecine, intuition de l'hygiène. En cuisine, nous sommes à la fin du 19e siècle. Son œuvre essentielle est son dictionnaire. Dictionnaire qu'il entame en 1883. C'est une œuvre monumentale, en 4 volumes. Bah, je disais que l'œuvre essentielle est son dictionnaire.
Alors, son dictionnaire, c'est... J'ai la chance d'avoir les 2 éditions de son dictionnaire. La première édition en original, en 4 volumes. La deuxième, ça a été une reproduction qui a été faite dans les années 70. Et puis c'est vrai que je les ai compilés de A à Z, comme un vrai dictionnaire. Et puis c'est une mine d'or de renseignements, non seulement sur les recettes de cuisine, mais sur la présentation des aliments, sur les qualités nutritives des aliments, sur ce qu'il faut faire ou pas faire avec certains aliments. Et puis, bien sûr, tout le concept de l'hygiène qui est derrière. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que Joseph Favre, il rajoute de nombreuses notes personnelles sur une recette qu'il a faite dans un endroit particulier. Et il en parle un tout petit peu. Donc, ce n'est pas seulement un dictionnaire de cuisine, c'est aussi un dictionnaire d'histoire. Et c'est surtout un dictionnaire de son histoire.
C'est un travail considérable, avec le souci en particulier de la précision de l'étymologie des mets, des différents produits. Je précise que l'intitulé exact du dictionnaire est « Dictionnaire universel de cuisine et d'hygiène alimentaire ».
Oui, et puis même au niveau de l'étymologie, non seulement il a cherché l'étymologie, mais pour de nombreux ingrédients, il a cherché les noms dans différentes langues, l'allemand, l'anglais, le français, l'italien, etc. Encore une fois, c'est vraiment un trésor de lecture. Moi, je ne suis pas cuisinier, je ne cuisine pas, donc je ne suis pas apte à définir la qualité des recettes qu'il utilise, mais en revanche, la qualité des descriptions, elle est extrêmement intéressante et très précise.
Et c'est un livre qui est orné de 1500 gravures.
Alors, il y a 1500 gravures, la plupart en noir et blanc. Il y a quatre planches en couleur. Mais encore une fois, les gravures, elles ont un intérêt quand elles sont vraiment reliées avec le texte.
Et il affirme « La cuisine peut être la médecine de l'avenir ».
Alors, moi, je partage complètement son avis. Et encore une fois, on a parlé tout à l'heure des méfaits de la malbouffe, etc. Mais ces méfaits de la malbouffe, ils sont de plus en plus importants aujourd'hui avec tous ces fast-foods, ces cuisines qui est préparée à la dernière minute ou que les gens achètent pour juste réchauffer dans un micro-ondes. Donc finalement, on est en train de détruire toutes les valeurs nutritives de l'alimentation.
Alors, il y a une question que je me suis posée en lisant votre livre. De quoi vivait-il à partir de 1883 quand il se lance à corps perdu dans cette œuvre considérable qu'est la rédaction de son dictionnaire ?
Alors c'est une excellente question. Moi j'ai essayé de rechercher ses sources financières, etc. J'ai rien trouvé de particulier à ce sujet. La question que je me suis posée, c'est que peut-être avec ses repas ou ses endroits où il a travaillé relativement prestigieux, il a mis de l'argent de côté pour pouvoir vivre sans avoir besoin de travailler. Une autre question, c'est est-ce que son épouse avait de l'argent ou pas, ça je ne sais pas.
J'ai pas du tout trouvé de
renseignements à ce sujet.
Ça dure quand même 20 ans.
Oui, tout à fait. Mais là, alors, c'est assez opaque, en fait, toute cette période financière et comment il gérait tout ça, etc.
Il est également à l'origine de l'Académie culinaire de France.
Oui. Donc, quand il a lancé son journal en 1877, l'idée, c'était de, par ce journal, avoir un accès aux cuisiniers, non seulement en France, mais dans le monde entier. Et puis, très rapidement, il a utilisé le journal comme un espèce de support pour créer ce qu'il appelait l'union des cuisiniers. Et puis, petit à petit, l'union est devenue un peu plus forte. Il y a eu des sections qui sont montées à gauche, à droite. Et il y a bien sûr eu une section à Paris qui, à un moment donné, a eu des divergences avec d'autres sections qui expliquent un petit peu les débuts chaotiques de l'Académie culinaire de France.
Qu'en reste-t-il aujourd'hui ?
De l'Académie culinaire de France ?
Oui.
Alors, c'est une académie qui est très vivace, qui a, en France, je crois qu'ils sont 900 membres. Ils ont 20 ou 30 délégations étrangères, peut-être un tout petit peu plus. Et puis elle est très vivante, elle essaye de mettre en avant les qualités de la cuisine, le respect des produits, etc.
Son heure de gloire sera le 21 juin 1894, l'inauguration à Paris, dans le quartier des Halles, de la rue Antoine Carême.
Oui, tout à fait.
Carême, grand pâtissier, génial cuisinier, au service en particulier du prince de Talleyrand lors du congrès de Vienne.
Oui, et d'ailleurs Antoine Carême a été repris comme emblème du logo de l'Académie culinaire de France. Si vous regardez la médaille de l'Académie culinaire, le personnage qui est au milieu, c'est Antoine Carême et pas Joseph Favre.
Et c'est un moment de très grande festivité.
C'était un moment, je pense.
La musique militaire est là pour célébrer l'événement, il y a un grand banquet qui est organisé.
Je pense que pour Joseph Favre, c'était très important de mettre en avant justement ses prédécesseurs dans la cuisine, parce que sans eux, il n'y aurait pas de cuisine en fait.
Nous nous retrouvons dans un instant, Albert Mudry, pour poursuivre cette discussion à propos de Joseph Favre, qui est le sujet du livre que vous publiez aux éditions Favre. D'ici là, nous allons marquer une pause musicale avec toujours Laurent Voulzy, un titre récent, il est sorti l'année dernière, en 2020, Lorelai, ce qui nous ramène en direction de la vallée du Rhin. Écoutez Passé Présent, l'émission historique de Radio Judaïka. Mon invité Albert Mudry pour Joseph Favre, cuisinier et érudit, la passionnante biographie qu'il publie aux éditions Favre. Joseph Favre décède à Boulogne-sur-Seine, aujourd'hui Boulogne-Billancourt, le 17 février 1903. Et il décède dans l'oubli.
Bah, effectivement, j'ai retrouvé en étudiant les journaux de l'époque, j'ai retrouvé quasi aucune notice ou mise en avant du décès de Joseph Favre, qui finalement, je pense que dans ses dernières années de vie, à part son dictionnaire qui a été publié, tout le monde l'avait oublié. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est que tous les grands dictionnaires de cuisine qui ont été publiés à partir des années 30 ou 40, je pense, après les avoir un petit peu dépiautés les uns après les autres, qu'ils ont tous copié ou en tout cas pris beaucoup de choses de Joseph Favre sans jamais le mentionner.
Était-il en relation avec Escoffier ?
Alors, j'ai pas trouvé de
l'autre grande figure voilà. De l'époque.
Exactement. Moi, j'ai pas trouvé de lien direct entre les deux. Ça, je ne sais pas. J'ai pas trouvé de lettres ou de choses comme ça, quoi.
Parce que Escoffier s'inspire un peu, du moins sur le plan strictement culinaire, de la méthode initiée par Joseph Favre.
Moi, je pense qu'il s'insinue pas seulement un peu, mais beaucoup, je dirais, parce que la structure du dictionnaire, la présentation, c'est Joseph Favre qui avait mis déjà tout ça en place bien avant Escoffier.
Alors finalement, il faut attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour que le grand public salue l'œuvre de Joseph Favre, en particulier en Suisse.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Académie culinaire de France s'est rendu compte que ils avaient un initiateur, un fondateur, et puis que le temps passait, et puis l'âge avançant, donc il y avait des jubilés à fêter. Et puis bien sûr, ils sont venus deux fois en Suisse pour marquer cet événement-là. Ça a aussi ouvert un certain intérêt aux Suisses de se dire, mais en fait, qui est Joseph Favre ? Et puis finalement, de se le réapproprier un tout petit peu, parce que j'ai lu pas mal de textes où on disait que Joseph Favre est très français. Donc voilà, c'était juste remettre l'église au milieu du village, on va dire.
Vous avez bien raison. Et aujourd'hui, comment est-il perçu ? Parce que en 2016, à Martigny, il y a un concours culinaire Joseph Favre qui est initié. Il devient même un personnage de roman en 2013, sous la plume de Michel Barrière, le roman Meurtre au Ritz.
Oui, c'était assez amusant comme, comme ouvrage.
Vous avez fait le souligner.
Oui, donc c'est quelqu'un qui a très certainement marqué son époque, même si à son époque, les gens n'étaient pas forcément conscients de ça. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'accès facile aux archives, etc., on a la chance de retrouver tout ça. Et puis l'idée de créer un concours Joseph Favre en Suisse, c'était fait par feu Benoît Violier, c'était aussi pour lui rendre honneur par rapport à tout son travail. Alors, on a fait ce concours déjà à deux reprises. L'année passée, il a été malheureusement annulé à raison du Covid, mais la prochaine date est fixée le 5 décembre de cette année, en espérant qu'on pourra de nouveau organiser ce concours culinaire.
Je pense qu'on peut raisonnablement l'espérer. Il y a quand même quelques éclaircies dans le cauchemar que nous vivons depuis maintenant un an. Albert Mudry, merci beaucoup pour cette contribution remarquable et très érudite, je tiens à le dire, à la mémoire de Joseph Favre. On apprend quantité de choses sur l'histoire de la gastronomie, l'histoire de la cuisine, un peu également l'histoire de la médecine, à travers la lecture de votre livre. En tout cas, moi, je me suis délecté. Si vous le permettez, monsieur le professeur, et c'est un autre professeur qui vous parle, il y a une toute petite erreur concernant un personnage qui m'est cher, Jean-Pierre Claus, que vous mentionnez, l'inventeur du pâté de foie gras de Strasbourg. Il n'est pas normand, même si, vous avez raison, certaines biographies erronées le présentent comme tel, car il a fait quelques temps de stage, même si l'expression n'était pas nécessairement établie à l'époque, chez son frère qui œuvrait dans l'Eure-et-Loir, enfin dans l'actuelle Eure-et-Loir, si mes souvenirs sont exacts. Non, il est né à Dieuze, c'est-à-dire dans le département de la Moselle, et il a passé l'essentiel de sa vie à Strasbourg, d'abord au service du maréchal de Contade, puis en ouvrant après la Révolution sa pâtisserie rue de la Nuée Bleue à Strasbourg. J'ai moi-même écrit un certain nombre d'articles à son propos, donc je connais assez bien le sujet. Voilà.
Alors, c'est quand le livre ?
Pardon ?
C'est quand le livre ? C'est comme celui de Joseph Favre.
J'ai d'autres urgences avant cela. Je travaille sur le patrimoine juif alsacien pour l'instant. Mais je voulais simplement vous signaler cela. Klaus, orthographie C-L-A-U-S-E et non pas C-L-O-S-E, même si à l'époque les orthographes des patronymes n'étaient pas tout à fait établis. Mais en tout cas, il est né à Dieuze. Voilà.
Merci pour cette précision.
Voilà, vous voyez que j'ai lu très attentivement votre
ouais, je vois.
C'est bien. Avec grand plaisir, en tout cas. Vous avez vraiment fait œuvre utile et je vous en remercie.
Je vous remercie aussi pour votre interview et pour la considération pour cet ouvrage.
En tout cas, je rappelle le titre, Joseph Favre, voilà un personnage à découvrir à travers votre plume, Albert Mudry, cuisinier et érudit, précurseur de la science culinaire et initiateur de l'Académie culinaire de France. C'est aux éditions Favre, ça nous permettra de voyager du côté de la Suisse. Ainsi s'achève cette émission passé-présent, merci à Thomas qui l'a réalisé. Nous nous séparons en chanson comme de tradition avec toujours Laurent Voulzy. Nous écoutons Cocktail chez Mademoiselle, un titre de 1979.
Jeune fille, je me sens un peu bleu, un peu blousé dans ce bal. Jeune fille, pas vraiment joyeux. Les amis de mademoiselle sont venus voir mademoiselle. C'est mignon, c'est le cocktail. Ça discute un peu chez toi, ça me fout comme un spleen. Qui c'est cette fille de dos là-bas? T'as pas de l'aspirine? Je veux pas faire de scandale, mais je viens voir mademoiselle. Pas du tout son cocktail. Ça traîne en longueur ton truc, je vais m'en aller. Dis à tes jolis cœurs que je suis pas énervé. Moi je suis venu pour intimité, pour douceur en particulier. Cigarette sur la table de nuit, tu m'as dit viens ici avant minuit cette nuit. Du monde chez mademoiselle, c'est le cocktail chez mademoiselle. Mais il y a du monde chez mademoiselle, c'est le cocktail. Tiens, v'là l'hippopotame qui danse, il m'éclaboue. C'est le drame en transe. Il faut qu'on se pousse. La boule dans la cuisine, c'est une fille qui roupille. Trop de liqueur, mal au cœur. Bon, maintenant tu vois, y en a marre, jeune fille. Je veux t'embrasser. Je peux leur dire bonsoir, jeune fille, fais-les dégager. Moi je suis venu pour intimité, pour douceur en particulier. Cigarette sur la table de nuit, tu m'as dit viens ici avant minuit cette nuit. Mais il y a du monde chez mademoiselle, c'est le cocktail chez mademoiselle. Mais il y a du monde chez mademoiselle, c'est le cocktail.
sur la terrasse, sur tes lèvres, un goût fraise. C'est le cocktail, mademoiselle. Y'a plus personne chez mademoiselle. Plus de cocktail, mademoiselle. Personne chez mademoiselle, moi et elle.
Da 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 da